Rencontre spirituelle en ce 29 janvier, c'est la fête de Sainte Paul, une femme qui avait des audaces, qui en aurait fait aujourd'hui une grande féministe dans sa façon qu'elle a de tout quitter à Rome, elle qui est une femme très importante, pour se rendre vivre à Bethléem, auprès de Saint Jérôme. Une femme qui est mère de famille, qui a des enfants, qui a énormément d'argent, qui vit dans un palais, qui a beaucoup de serviteurs, qui est très puissante, qui appartient à une famille patricienne de Rome. C'est un des phénomènes les plus étonnants des premiers siècles. Elle est née en 347, elle est donc devenue veuve, puis elle est devenue moniale. C'est une grande dame romaine, donc qui est devenue la fille spirituelle de Saint Jérôme, qui est veuve à 32 ans, mère de 5 enfants, devient vraiment très impressionnée par ce que Saint Jérôme a à lui enseigner, à lui dire, et au bout de plusieurs années, quand ses enfants sont placés, que cette riche femme, accompagnée de sa fille d'ailleurs, se rend en Terre Sainte, et puis elle fonde 3 monastères. C'est un phénomène, c'est un personnage rare, Sainte Paul. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je n'utiliserai pas beaucoup d'autres textes qu'une lettre de Saint Jérôme qu'il écrit dans ses vieux jours, une lettre qu'il écrit à la fille de Sainte Paul, qui s'appelait Eustochie ou Eustochium, ça dépend comment on prononce. La version française de son nom, c'est Eustochie, E comme Eustache, mais T-O-C-H-I-E. Probablement le féminin d'Eustache. Et je vais donc prendre cette lettre qu'il lui a écrite, et voici comment il commence l'éloge qu'il fait de sa mère, Sainte Paul, à Eustochie. Et le début a quelque chose d'un peu hallucinant. Les 2 premières phrases, ça rappelle les tableaux de Jérôme Bosch ou de Salvador Dali. Hein. C'est d'un surréalisme, il y aurait un tableau à faire avec ça. Voici les paroles de Saint Jérôme. « Quand tous les membres de mon corps seraient changés en des langues et que chacune d'elles formerait une voix humaine, elle ne pourrait pas suffisamment exposer les mérites ni relever les vertus de la vénérable Paul. » Vous voyez le personnage de Saint Jérôme, il dit « Quand tous les membres de mon corps seraient changés en des langues, donc tous ces membres seraient des bouches, et que chacune d'elles formerait une voix humaine, elle ne pourrait pas suffisamment exposer les mérites ni relever les vertus de la vénérable Paul. » Il ajoute « Elle était d'un sang illustre. » Mais elle est devenue beaucoup plus noble par sa sainteté. Elle avait eu de grandes richesses, mais elle s'est rendue beaucoup plus recommandable en se faisant pauvre pour Jésus-Christ. Elle descendait par son père du célèbre Agamemnon, qui prit la fameuse ville de Troie, comme vous savez, après 10 années de siège. Et elle descendait par Brésille, sa mère, des Scipions et des Gracques, ce sont des grandes familles patriciennes de Rome, ça. D'ailleurs, les Gracques, ou Gracchus, comme on dit souvent, étaient alliés par mariage. Les fils des Gracques avaient épousé les filles des Scipions. Ce sont des réformateurs, des conquérants aussi, des grands généraux. Ce sont parmi les plus grandes familles illustres de Rome, les Scipions puis les Gracques. Donc, elle était descendante de ces familles-là par sa mère. Mais elle quitte Rome pour Bethléem, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et Saint Jérôme écrit, et elle échangea ses palais dorés contre des cabanes de terre. Nous ne pleurons pas de l'avoir perdue, mais nous rendons grâce à Dieu, par la bonté duquel nous avons eu le bonheur de l'avoir en ce monde, d'où il lui a plu de l'appeler à sa gloire. C'est toujours le texte de Saint Jérôme que j'ai voulu. Je l'ai transformé un peu parce qu'il y a des choses un peu trop anciennes. Tandis qu'elle vivait ici, elle gémissait parfois comme exilée. Lorsqu'elle était accablée de maladie, Elle les souffrait patiemment. Élevant les yeux au ciel au plus fort de ses douleurs, elle soupirait, en disant, « Qui me donnera des ailes de colombe, je volerai et je me reposerai. » C'est le psaume 54, ça, au verset 7. C'est assez une belle prière, ça, c'est très poétique. « Qui me donnera des ailes de colombe, et je volerai, et je me reposerai. » On a souvent ce sentiment-là quand on les voit voler, les ailes étendues, les colombes ou ces oiseaux blancs dans le ciel. On se dit, ils doivent se reposer comme ça en planant. J'appelle à témoin, dit Saint Jérôme, j'appelle à témoin Jésus-Christ et ses saints, et entre tous l'ange gardien de cette admirable femme, que je ne dis pas cela par flatterie ou par exagération, mais comme une pure vérité. Je connais même que je reconnais même que tout ce que j'en pourrais dire n'est rien au prix de son mérite. Cette vertueuse femme est louée généralement par tout le monde. Elle est admirée des prêtres. Elle est regrettée des vierges, c'est-à-dire les moniales qu'elle avait réunies dans ces trois monastères qu'elle a fondés à Bethléem. Et Saint Jérôme ajoute, elle est pleurée des religieux et des pauvres. Les pauvres qu'elle a même surpassé par une grande pauvreté. Un homme de mérite, c'est-à-dire un homme ne mérite pas de louange pour ses richesses, dit Saint Jérôme, mais seulement pour le mépris qu'il en fait par amour pour Jésus-Christ. Et il ne faut pas faire cas de celui qui est chargé d'honneur s'il n'est pas prêt à les mettre sous les pieds pour la gloire de Dieu, dit Saint Jérôme. Entre toutes les perles précieuses, Paul était la perle inestimable. Cette sainte, par son humilité, se rendait la moindre de toutes, pour devenir la plus grande, et à mesure qu'elle s'abaissait, elle était élevée. Et plus elle fuyait les honneurs vains de la vie présente, plus elle était suivie par la gloire, comme si la gloire eût été amoureuse de sa vertu. C'est un peu ce qu'on trouve quand on pense, mettons, à la vie de... Prenons quelqu'un de chez nous, Jean Vanier, bon. Son père était général, il est devenu gouverneur général du Canada. Sa mère appartenait à une des grandes familles. Et puis, il a reçu une excellente éducation. Bon, puis il était officier de marine, licencié en philosophie. Quoique c'est pas grand-chose, une licence en philosophie, j'en ai une, et c'est pas bien important. Puis, il quitte le monde. Personne ne le connaît à ce moment-là. Puis il devient illustre par toute la terre, en se faisant pauvre parmi les pauvres, à l'Arche, où j'ai déjà tourné un film sur lui, près de Compiègne. Et j'ai bien connu Jean Vanier, et c'est un homme très humble, très simple. Et il est connu, il est dans la gloire, mais la gloire qui est amoureuse, comme dit Saint Jérôme, de sa vertu. Cette femme, sainte Paul, a été marié à un grand seigneur romain qui se disait de la famille d'Aîné et du très illustre sang de Jules César, dit Saint Jérôme. C'est Jules César qui était le premier empereur des Romains. Et quoi que ce soit une petite gloire d'être né de noble maison, néanmoins, dit Saint Jérôme, nous devons beaucoup estimer ceux qui méprisent une illustre naissance pour l'amour de Jésus-Christ. Un peu comme Saint Thomas, hier, qui était né d'une grande famille et qui a tout quitté. Même que ses deux frères, vous vous en souvenez hier, hein, ses deux frères qui étaient des soldats l'ont emprisonné 2 ans pour lui éviter de devenir dominicain. C'est quelque chose. Alors, de ce mariage de Saint Paul avec son mari, qui avait un curieux nom, un Toxode, eh bien, de ce mariage sont nées 4 filles, Blésille, Pauline, Eustochie et Rufine, et un fils qui fut appelé Toxos, comme son père. Son mari étant mort, là, Saint Paul emploie libéralement les grands biens de son patrimoine à nourrir les pauvres, qu'elle fait chercher de tous côtés. Elle fait soigner les malades, elle fait ensevelir les morts. Elle nourrit les gens faméliques. Puis elle fait revêtir aussi les gens qui n'ont pas de vêtements suffisamment. Et lorsque ses parents la blâment de ce qu'elle ôte l'héritage à ses enfants pour le donner aux pauvres, elle leur dit qu'elle ne leur peut donner une meilleure succession que la miséricorde de Dieu. En somme, ce qu'elle veut laisser à ses enfants, c'est la foi. la connaissance de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de l'amour de Dieu. En somme, c'est une femme, une mère de famille, qui considère que les richesses les plus précieuses qu'elle peut donner à ses enfants, c'est pas de la richesse en argent. C'est la richesse du cœur, c'est la richesse de l'Évangile qui va les habiter. Et c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Saint Jérôme ajoute, elle est visitée par les plus notables de la ville, comme c'est la coutume de rendre ses devoirs aux personnes de haute classe. Mais cela ne lui plaît guère, parce qu'elle n'inspire qu'à la solitude. Et elle n'a d'inclination que pour le recueillement intérieur. Et même les honneurs et les respects qui lui sont rendus la font fondre en larmes parfois, car elle ne se sait pas digne, elle ne se croit pas digne de ces marques de respect. Ça l'agace. Mais ça la fait pleurer à l'occasion. Un jour, des prélats, des évêques, arrivent d'Orient à Rome, 382, pour consulter le pape Saint Damase au sujet de certains problèmes, certains différends. Et de ce nombre, il y a Saint Épiphane, évêque de Salamine en Chypre, à Chypre. Elle va aller le visiter en se rendant en Palestine d'ailleurs. Puis il y a aussi Paulin, qui est patriarche d'Antioche, c'est un siège extrêmement important, Antioche. Saint Pierre a été évêque d'Antioche. Et ce sont des personnages très saints et de très grande autorité, dit Saint Jérôme, qui ont amené, justement, Saint Jérôme avec eux. Saint Paul a ses deux évêques pour ses hôtes. Elle les reçoit chez elle. En fait, Épiphane loge chez elle, l'évêque de Chypre, et Paulin, l'évêque d'Antioche, elle le loge dans une autre maison qu'elle a fait préparer, qui lui appartient. Elle profite si bien des conversations qu'elle a avec ses deux grands saints, deux grands évêques, et elle en demeure si embrasée de l'amour de Dieu, dit Saint Jérôme, qu'oubliant sa condition, il lui prend envie de s'en aller au désert de l'Égypte et de la Thébaïde pour y passer sa vie, à l'imitation de Saint Antoine, le grand moine, le père des moines, Saint Antoine, de Saint Hilarion et de Saint Macaire. Et l'hiver étant passé, en 383, l'année suivante, c'est avec regret et un grand désir de les suivre, ces deux évêques, qu'elle les voit partir. Elle semble ne vivre que pour Dieu. Et la solitude, c'est ça qui l'attire. Mais elle était loin d'avoir été dans son cœur un amour extrême pour ses enfants. C'était une vraie mère. Mais ses enfants sont très chrétiens. Et Blaisille, son aîné, étant devenu veuve après quelques mois de mariage, avait songé à quitter entièrement le monde, mais au moment de l'exécuter, elle a été surprise par la mort. Alors Paul, Saint Paul, a été vivement touché par ce dur coup, et aux funérailles, elle n'a pu comprimer sa douleur, et elle est tombée évanouie, nous raconte Saint Jérôme, et on a craint pour sa vie. Il a fallu que Saint Jérôme lui-même, dans une lettre éloquente, use de toute son autorité pour la ramener à l'acceptation, en lui montrant que l'excès de sa douleur était un scandale aux yeux des païens, et un déshonneur pour l'Église et pour l'État monastique. Et nous verrons tout à l'heure les progrès que va faire Saint Paul dans la voie du détachement et de l'adhésion à Jésus-Christ, comme on le voyait jusqu'à tout récemment. Hein. Jusqu'à tout récemment, il y avait comme une espèce d'opposition entre le monde et la vie monastique, et une possibilité de se sanctifier que dans un monastère. On sait très bien, je vous ai fait des émissions sur la sanctification des laïcs, dans le monde aussi. Non pas que la vie monastique ne soit pas extrêmement attirante, je suis toujours attiré par ce genre de vie. Alors, elle se fait faire le reproche de notre Saint Paul, hein, que l'excès de douleur, c'est un scandale aux yeux des païens. L'excès de cris puis de pleurs et de larmes, c'est un déshonneur pour l'Église et pour l'État monastique. Mais c'est compréhensible que l'on puisse pleurer. Le Christ a bien pleuré à la mort de Lazare, n'est-ce pas? Alors, le printemps arrivé, Saint Paul fait affréter un navire pour faire le voyage pour partir en Terre Sainte. Et rien ne l'arrête, hein? Ni les prières de ses amis, ni les plaintes de ses domestiques, ni les bruits du monde, ni même le sentiment de tendresse de mère qu'elle ressent au fond d'elle-même, ce sentiment de tendresse qu'elle a pour ses enfants. Alors, comme elle les aime beaucoup, bien, elle leur distribue évidemment ses biens, Elle se dépouille de tout. Elle a renoncé à ses successions temporelles, comme on dit, comme écrit Saint Jérôme d'ailleurs, afin de prétendre justement à l'héritage du royaume de Dieu, ajoute Saint Jérôme. Elle est accompagnée à sa sortie de Rome par ceux à qui elle a donné ses biens. Bon, son fils la supplie de ne pas l'abandonner, c'est le plus jeune. Hein? Mais c'est déjà un jeune homme. Et sa fille Rufine, qui est prête à se marier, l'a pris d'attendre son mariage, ses noces. Ils pleurent tous. Elle se sent déchirée. Mais elle est montée sur le bateau, elle détourne les yeux du rivage, elle les fixe du côté du ciel, comme si elle voyait un astre invisible qui la guidait. Et puis, elle surmonte l'affection maternelle par l'amour qu'elle porte à Dieu. Elle oublie qu'elle est mère pour un moment, car elle veut être servante de Jésus-Christ. C'est tragique, au fond, cet appel terrible qu'elle a, hein? Ça rappelle un peu Marie de l'Incarnation, avec son fils Claude, qui est devenu abbé bénédictin. On connaît ça, Marie de l'Incarnation, qui est morte à Québec. Alors, le vaisseau démarre à force de rames et de voiles. Les marins regardent ceux qu'ils laissent à terre, et Saint Paul, seul, détourne sa vue. Son cœur est trop déchiré. Elle a peur de jeter les yeux sur ce qu'elle ne pourrait voir sans douleur. Toute sa consolation est d'avoir avec elle son amie, sa chère Eustochie, sa fille, qui l'accompagne en ce voyage. Elle aborde à Chypre, où elle va se prosterner aux pieds du Saint-Évêque Épiphane qu'elle avait reçu chez elle, qui lui donne l'hospitalité, lui à son tour, pendant 6 jours. Elle s'arrête ainsi, non pour se reposer d'ailleurs, mais pour visiter les maisons religieuses dont cette île de Chypre est peuplée, puis aussi pour faire la charité aux pauvres, ça l'habite constamment. Et de là, elle passe à Séleucie, puis à Antioche, par terre, pour voir le Saint-Évêque Paulin qu'elle a reçu aussi. Et celle qui, à cause de sa noblesse, a été accoutumée à se promener en litière, puis à être portée par ses serviteurs, eh bien, elle se contente d'aller sur une pauvre monture, un âne. Et enfin, elle arrive à Jérusalem, avec grande joie. Et elle y est honorablement reçue par le président de la Palestine, qui n'ignore pas sa haute naissance. Le président de la Palestine lui a fait préparer son palais, mais elle refuse ses offres et ne veut demeurer que dans un pauvre logis. Et alors elle entreprend de visiter, ah, c'est raconté, je pourrais tout vous raconter sans détail, j'ai tous ces textes-là, c'est magnifique. Hein? Elle visite les lieux saints. Avec une grande dévotion, elle est ravie en méditant ce que le Sauveur y a accompli. C'est ça, aller en Terre Sainte. Hein? Il faut se mettre dans l'esprit de Saint Paul et de tous ses grands pèlerins. Aller en Terre Sainte pour loger dans des grands hôtels et bien manger et circuler plus ou moins pour aller se baigner au bord de la Méditerranée, c'est plus ou moins curieux tout ça. Au mont du Calvaire, où notre Seigneur a souffert, est mort, elle s'humilie devant la croix. Elle y verse des larmes, comme si elle voyait de ses propres yeux son Rédempteur encore attaché à la croix. C'est le texte de Saint Jérôme. Elle entre dans le sépulcre où le corps de Jésus a été déposé, puis elle baise la pierre que l'ange a détournée de l'entrée du monument. Moi, je me souviens que là, j'ai baisé la pierre où le Christ a été déposé. On ne peut pas faire autrement. Hein? Et on est saisi, c'est extraordinaire que d'entrer dans le Saint-Sépulcre, dans la basilique du Saint-Sépulcre. C'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est là qu'il est ressuscité. Elle va au Mont Sion, dit Saint Jérôme, pour y voir la colonne où Jésus a été attaché et fouetté. Elle voit aussi sur cette montagne la grande salle où a été célébrée la dernière scène, hein, le jeudi saint au soir, où l'institution de l'Eucharistie, et où le Saint-Esprit descendit sur les apôtres aussi, le jour de la Pentecôte, quoi. Saint Jérôme ajoute, de là, elle va à Bethléem. Elle entre dans la grotte où notre Jésus a voulu naître. Elle assurait, dit Saint Jérôme en ma présence, elle assurait qu'elle voyait des yeux de la foi l'enfant Jésus nouvellement enveloppé de l'ange dans la crèche, et les mages qui l'adoraient, et mêlant à la joie incroyable qu'elle sentait en son âme, des larmes de consolation, elle disait « Je vous salue, Bethléem ». Vous savez que Bethléem, ça veut dire « maison du pain hein? ». Pensez à l'Eucharistie, le pain, maison du pain. « Je vous salue, Bethléem, maison de pain où naquit le pain vivant qui est descendu du ciel. » Ce sont les paroles de saint Paul. De Bethléem, elle va au mont Olivier. Elle voit la sépulture finalement de Lazare. Elle entre dans les maisons des deux sœurs, Marthe et Marie. Après cela, elle prend le chemin du désert de l'Égypte pour saluer ses ermites qui mènent en ces solitudes une vie qui souvent semble presque inhumaine. Vous avez entendu les émissions spéciales de Robert Prudhomme à Radio Ville-Marie sur tous ces personnages, et je vous ai déjà fait des émissions moi-même sur Saint-Antoine, où on raconte comment vivaient ces moines, ces ermites dans le désert d'Égypte. Les religieux viennent au-devant d'elle, en Égypte, là, pour la recevoir. Mais elle se jette à leurs pieds, elle s'estime indigne de cet honneur. Elle désirait de bon cœur, raconte saint Jérôme, elle désirait de bon cœur habiter les déserts avec ses moines, qu'elle considère comme des anges. Mais elle retourne en Palestine, puis elle vient demeurer à Bethléem. Elle y loge 3 ans dans une pauvre maison, jusqu'à ce qu'elle fasse bâtir pour la retraite des pèlerins qui viennent alors de partout pour visiter la Terre Sainte. Elle fait bâtir un monastère puis un hôpital dans la même rue où Saint-Joseph et la Sainte Vierge, dit-on, n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie. C'est dire que Saint-Paul était si humble que ceux qui ne la connaissaient que par la réputation de sa piété avaient peine à croire, lorsqu'on la lui montrait, que ce fut cette célèbre Paule, cette célèbre patricienne de Rome, cette femme d'une des plus grandes familles de Rome. Mais les pèlerins la prenaient plutôt pour une de ses propres servantes. Elle en avait d'ailleurs les apparences parce que, étant environnée de plusieurs moniales, de plusieurs vierges, elle paraissait par ses vêtements, puis ses paroles, et puis sa démarche, elle paraissait être la plus petite de toutes, une sorte de mère Teresa, quoi. Son lit était une natte étendue à terre, sur laquelle elle se couchait. Saint Jérôme dit, on n'a jamais pu la persuader de coucher dans un lit, même quand elle était malade. Non. D'ailleurs, le peu de repos qu'elle prenait la nuit était interrompu par la prière. D'ailleurs, c'est bien quand la maladie ou des choses nous réveillent la nuit. Hein. C'est bien de prier, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes. Beaucoup de gens en profitent pour prier une demi-heure la nuit. De plus en plus actuellement. Hein. Alors, son oraison, son état de prière, dit saint Jérôme, était continu. Il lui arrivait de pleurer ses fautes les plus légères, comme des crimes et des impiétés. Mais elle s'est réveillée de tout ça. Et quand on lui conseillait de retenir ses larmes et de conserver sa vue pour lire les évangiles, elle répondait, « Il faut que le visage qui s'est fardé à Rome contre la loi de Dieu soit enlaidi, et que celle-là, elle-même, s'efforce de plaire à Dieu, qui a mis tant de soins à plaire au monde. » Elle avait tellement cherché à plaire au monde, elle voulait maintenant plaire à Dieu. Et nous verrons la suite tout à l'heure de cette grande sainte, sainte Paule. Elle était, dit saint Jérôme, qui raconte sa vie en écrivant à la fille de sainte Paule, elle était, durant son mariage, déjà un exemple de chasteté pour les dames romaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle était mariée, elle était chaste. Mais oui, ça prend de la chasteté même dans le mariage. On peut pas disparaître avec n'importe qui. Et puis, il s'agit pas de ne pas observer la chasteté quand le mari est malade ou absent. La chasteté existe dans le mariage. Il y a des moments où il faut pratiquer la chasteté. Donc, elle était déjà, durant son mariage, un exemple de chasteté, dit saint Jérôme, pour les dames romaines. Et pourtant, il n'y avait jamais personne dans cette ville de Rome, si décadente, qui osait médire de Paul. Elle était compatissante et d'un abord agréable à tout le monde. Elle faisait l'aumône aux pauvres, dit saint Jérôme. Elle encourageait les riches à faire de bonnes œuvres. Elle était libérale envers les libérales, entendons-nous. Hein. Elle était généreuse, dirait-on, pour éviter la politique, là. Elle était généreuse envers les nécessiteux. Et elle donnait si abondamment à ceux qui étaient dans le besoin qu'il semblait qu'elle était excessive. Saint Jérôme a écrit « Moi-même, je fus contraint de l'en reprendre, et je lui dis de faire attention à ce qu'elle donnait, de peur d'épuiser tout d'un coup son revenu et de sauter à elle-même le moyen de donner à l'avenir. Mais elle me répondit doucement qu'elle désirait mourir si pauvre, qu'il ne demeura pas 5 sous à sa fille Eustochie, étrange, et que les derniers devoirs de sa sépulture soit rendu à son corps par charité. Elle disait encore, ajoute saint Jérôme, si je tombe en nécessité, s'il me reste plus rien, quoi, si je tombe en nécessité, je trouverai assez de gens qui m'en donneront ou prêteront. Mais si j'en refuse à ce pauvre, à qui aura-t-il recours? C'est pousser l'évangile très loin. Hein? Si j'en refuse à ce pauvre, à qui aura-t-il recours? Saint Jérôme ajoute, je souhaitais que Paul fût plus ménagère, mais elle, brûlant de l'amour du Sauveur, s'étudiait ou s'efforçait à lui être semblable et à suivre, pauvre, celui qu'il était devenu pour son salut. Aussi, laissa-t-elle sa fille Eustochie si chargée de dettes qu'elle n'eut jamais le pouvoir de les acquitter avec son bien, mais seulement par le moyen de la providence de notre Seigneur. Sa pauvre fille était tombée dans la pauvreté à cause de sa mère. C'est de l'exagération, il me semble. Cependant, quoiqu'elle fût si portée aux actions de charité et aux œuvres de miséricorde, ajoute saint Jérôme, qui œuvre de miséricorde qui regarde le prochain, elle n'oubliait pas la charité qu'elle se devait à elle-même. Elle savait se mortifier par diverses austérités que sa dévotion lui inspirait. Elle faisait pas comme ceux qui donnent libéralement aux pauvres et hésitent à châtier leur corps, ajoute saint Jérôme. Ces gens qui sont tout ensemble généreux et voluptueux, qui blanchissent le dehors et ne sont rien au-dedans que d'infects cadavres. Ça reprend des paroles de l'Évangile, sépulcre blanchi. C'est les paroles de Jésus. Saint Jérôme ajoute, mais Paul traitait si rigoureusement son corps que ses jeûnes continuels et ses grands travaux la faisaient souvent tomber en des faiblesses qui étaient plutôt dangereuses à sa santé et à sa vie. Toujours de l'exagération. C'est triste au fond. Elle ne se servait d'huile pour se nourrir qu'aux jours de fête. Elle ne buvait pas de vin. Elle ne mangeait ni lait, ni beurre, ni œufs, ni miel, ni poisson, ni autre chose de bon goût. Je ne vois pas qu'est-ce qui lui restait à manger, moi, personnellement. Saint Jérôme exagère peut-être. Et saint Jérôme ajoute que sainte Paul se rendit fort intelligente en la langue hébraïque. Elle l'a apprise. Pour mieux entendre la parole de Dieu, à quoi elle employait ses heures les plus précieuses, tant du jour que de la nuit. C'est en partie, d'ailleurs, il faut prendre note de ça, que c'est pour elle puis sa fille, Eustochie, que saint Jérôme a entrepris la Vulgate, la traduction de la Bible. Il leur dédie, d'ailleurs, toute cette œuvre, et les prend pour juge de l'exactitude de son travail. On peut lire ça dans la 29e lettre de saint Jérôme. Et saint Jérôme continue en disant, au sujet de la vie de saint Paul, « L'envie aboie incessamment contre la vertu. » C'est vrai, ça. C'est vrai que l'envie, c'est comme un chien qui aboie. Hein? « L'envie aboie incessamment contre la vertu. » Pas surprenant qu'on aboie tellement contre le pape et contre les chrétiens à travers le monde. Imaginez ce qu'on aboie contre les chrétiens qui disent qu'on ne doit pas tuer nos enfants avant qu'ils naissent, et encore moins après leur naissance. On veut proposer des lois actuellement pour qu'on puisse permettre à l'enfant d'être accepté jusqu'à 3 jours après sa mort, et d'autres disent, mais des certains médecins, jusqu'à 1 mois après sa mort. On décidera, en dedans d'un mois, s'il faut l'éliminer ou non. C'est beau, très beau. Alors l'envie aboie incessamment contre la vertu, dit saint Jérôme. Le Fils de Dieu fut crucifié par envie, et ce fut par le même esprit que Caïn tua son frère Abel. Et c'est très beau ce que dit saint Jérôme ici. Il dit, en un mot, tous les saints ont été des sujets d'envie et de calomnie pour le monde. C'est ce qu'il plaît à la providence divine de permettre afin d'ôter à ses serviteurs les semences de vanité et de leur donner plus de moyens d'exercer la patience. Saint Paul, dit saint Jérôme, ne fut pas exempt de cette épreuve. Elle trouva plusieurs adversaires qui l'empêchèrent bien de faire gloire de ses vertus, en s'efforçant, par leur médisance, d'obscurcir toute sa renommée. Mais elle souffrit toutes ces injures avec constance. Elle répondait à ceux qui lui conseillaient de se retirer et de s'en aller ailleurs, qu'il n'est pas de lieu où le démon ne fasse la guerre aux serviteurs de Dieu, et qu'elle ne pouvait rencontrer ailleurs ce qu'elle avait à Bethléem, qu'il valait beaucoup mieux vaincre l'orgueil par l'humilité, que les injustes calomnies par la mansuétude, puis il fallait vaincre les injustes calomnies par la mansuétude, que par une fuite lâche et honteuse. Mais je continue toujours avec saint Jérôme. Un homme extravagant, dit saint Jérôme, lui dit un jour que son excessive ferveur à saint Paul n'était au sentiment de plusieurs qu'une pure folie, un défaut de jugement, qu'elle avait besoin qu'on lui guérisse la tête, qu'on l'envoie chez un psychologue, dirait-on, ou chez un psychiatre aujourd'hui. Mais armé du Saint-Esprit et de plusieurs passages de la Sainte Écriture qu'elle avait toujours dans le cœur et sur la langue, elle répondit qu'il ne fallait pas s'étonner si l'on disait cela d'elle, puisqu'il s'en était peu fallu que notre Sauveur, Jésus, Sauveur du monde, qui est la sagesse incarnée, ne fût garrotté par les propres membres de sa famille comme un homme insensé, vous vous souvenez de ça dans l'Évangile, et que les Juifs disaient qu'il était un Samaritain, un démoniaque qui chassait les esprits par la vertu de Béelzébuth, prince des ténèbres. Une bonne réponse. Impressionné par toutes les hautes leçons reçues des solitaires, bien sainte Paul est pleine du récit de la vie de Marie l'Égyptienne. Bon, j'ai déjà lu ça, c'est très beau. Que Zosime lui avait raconté. Et saint Paul conçoit donc le projet de réunir en communauté les vierges qui l'accompagnent. Elle se fixe à Bethléem, donc elle fait construire près de la crèche deux monastères, un de femmes où elle habite avec sa fille Eustochie, et la colonie de pauvres et de vierges qui sont venues à sa suite. L'autre monastère, c'est un monastère d'hommes pour saint Jérôme et ses amis. En attendant que les constructions soient terminées, là, elle choisit pour elle et ses compagnes une petite maison retirée, et pour Jérôme et les siens une habitation plus modeste encore. Et des deux côtés commence la vie de travail, d'études et de prières. Paul se remet avec plus de bonheur que jamais à la lecture de la Bible et des livres saints. Avec Eustochie et ses compagnes, bien, elle va dans la plaine de Bethléem. Elle chante des psaumes. Puis elle fait de fréquentes visites aux lieux saints de Jérusalem, au couvent de la montagne du Mont des Oliviers, là, la montagne des Oliviers. Puis, au milieu des joies spirituelles de sa nouvelle vie, elle s'entretient avec les gens de Rome par une correspondance active qui ne cessera pas. Elle va écrire de nombreuses lettres. Les constructions avançaient trop lentement au gré de Paul. Il y eut une église pour chacun des deux monastères. Et celle des religieuses a été sous le patronage de sainte Catherine d'Alexandrie. Et tout à côté, elle a fait construire un hospice pour les pèlerins. Puis au bout de 3 ans, tout fut terminé. J'ai aussi ici une lettre de sainte Paul à son amie romaine Marcella pour la convier à la rejoindre en Terre Sainte. C'est une assez belle lettre. Hein? Voici la lettre. Très ancien, ça date de l'an avant l'an 400, elle dit, en ce qui concerne le berceau du Christ, l'hôtellerie de Marie, notre Bethléem, car chacun disserte préférentiellement sur ce qu'il possède, quelles impressions allons-nous trouver pour évoquer la grotte du Sauveur et la crèche où il vagissait petit enfant? Elle continue en disant, sans doute, nous ne possédons pas les vastes portiques, ni les lambris dorés des palais bâtis avec la sueur et le sang du pauvre. Là où l'on se promène sous des plafonds qui vous cachent le ciel, Non, ici, nous n'avons qu'une petite ouverture du sol. Mais c'est en ce lieu que naquit le Créateur des cieux. C'est en ce lieu qu'il fut enveloppé de l'ange, présenté au berger, révélé par l'étoile et adoré par les mages. Certes, continue Sainte Paul, nous estimons l'endroit plus sacré que notre roche tarpéienne, si souvent frappée de la foudre parce qu'elle est abhorrée du Seigneur. Sans doute c'est à Rome que se trouve la Sainte Église, que se trouvent les trophées des martyrs, la vraie foi prêchée par le grand apôtre. C'est là que, sur les ruines du vieux paganisme, s'élève et grandit quotidiennement le nom chrétien. Mais l'ambition, la puissance, la grandeur de la cité, la nécessité de voir et d'être vu, d'entendre et de parler, de louer et de médire, toute cette foule qui vous assaille, quelle antinomie du calme et de la paix monastique. On vous visite, si vous recevez, adieu le silence. Si vous fermez votre porte, on vous traite d'orgueilleuse. Si vous rendez des visites, il faut vous rendre à ces portes splendides et traverser au milieu d'esclaves bavards et caquetants des appartements dorés. Voilà Rome et ses splendeurs. Et elle termine cette lettre à Marcella, Saint Paul, en disant, mais à Bethléem, tout est simple et paisible. Hors du chant des psaumes, règne un silence profond. Partout où vous allez, vous entendez le paysan qui, conduisant son arrière, chante l'Alléluia. Ah, le moissonneur qui glane sa gerbe fredonne un psaume. Le vigneron qui taille son cep redit le chant de David. Ce sont les airs de ce pays, ses chansons d'amour, les refrains du pâtre et du paysan. Bethléem a bien changé depuis ce temps-là. Oh là 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 là, c'est pas le même genre, hein? Alors Paul imite donc les cénobites, les moines du bord du Nil en Égypte, qu'elle est allée visiter. Elle partage ses religieuses en trois groupes. Elles ont chacun une abbesse ou une mère supérieure. Elles sont séparées pour le travail et les repas. Les religieuses devaient se réunir toutes à l'église pour la psalmodie puis la prière cependant. Paul est toujours la première. Elle arrive au chant joyeux de l'Alléluia, hein? On se réunit dès le matin, puis à la troisième, et à la sixième, et à la neuvième heure. Donc, à 9 heures du matin, à midi, puis à 3 heures de l'après-midi. Puis enfin, le soir, au milieu de la nuit, une nouvelle réunion. On chante le psautier tous les jours. C'est un peu beaucoup, hein, 150 psaumes. Entièrement, dit-on. Et toutes les religieuses devaient le savoir par cœur. Il n'y avait pas de livre. Chaque jour, il leur fallait encore apprendre quelque autre portion d'écriture. Puis le dimanche, la communauté se rendait à l'église de Bethléem. Et au retour, se faisait la distribution du travail pour la semaine. Et d'ordinaire, il s'agissait de confectionner des habits pour le monastère ou pour les pauvres de la contrée dont Paul est devenu bientôt la providence. Toutes les religieuses patriciennes, parce qu'elle avait attiré beaucoup de femmes de très grande classe, là. Et puis alors, les religieuses, qu'elles soient patriciennes ou plébéiennes, c'est-à-dire qu'elles viennent du peuple ordinaire, portaient le même costume de laine, et la clôture était absolue, puis toute communication avec le dehors était rigoureusement interdite. Hein. Et la plus grande autorité de Paul pour maintenir l'obéissance puis la ferveur a été celle de son exemple et de ses vertus. On la voyait avec sa fille Eustochie, la première partout, au travail, aux rudes pratiques de la pénitence, comme à la psalmodie puis à la prière. Et Saint Jérôme, qui a dépeint ses soins empressés et délicats, aurait bien voulu modérer toutes ses prodigalités, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et elle écoutait ses paroles avec respect, mais elle trouvait toujours une réponse. Une réponse, en opposant les belles paroles des livres saints. Les paroles de la Bible sur l'aumône, sur la charité, sur la prière et le don de soi. La plus grande autorité de Saint Paul, pour maintenir l'obéissance puis la ferveur dans ses monastères, c'est celle de son exemple et de ses vertus. On la voyait avec sa fille, la première partout, donc au travail, aux rudes pratiques de la pénitence, comme à la psalmodie et à la prière. Et cette sainte, vénérée dans le monde entier, puis cependant abute à des grandes calomnies, je vous en ai parlé, hein. Les partisans d'Origène ont blâmé la prodigalité presque excessive de Paul. ses jeûnes austères aussi, puis la simplicité de ses vêtements, et même le fait qu'elle ait fondé plusieurs monastères. Pour dire que Saint Jérôme s'était attiré à Rome une certaine haine, et s'est retombé sur elle. Et fatigué de ses luttes, Saint Jérôme aurait voulu quitter Bethléem. Pâle, plus douce, elle sait bien qu'on fuit en vain les épreuves. On transporte les épreuves avec nous. C'est pas parce qu'on part d'un lieu pour aller ailleurs. Il y a des gens qui s'imaginent, ah, je vais aller vivre sur la côte ouest, j'aurai plus de problèmes. Ben oui, mais ils ont les problèmes dans leur cœur. Ça sert à rien de fuir. Il y a un éloge de la fuite. Mais encore faut-il fuir intelligemment. Et donc, pour elle, elle dit qu'on fuit en vain l'épreuve. Et que l'épreuve nous atteint partout. Elle déclare qu'elle ne peut consentir à se séparer volontairement de sa chère Bethléem. « Oui, dit-elle, si le démon ne combattait en tout lieu contre les serviteurs de Dieu, il ne devait pas nous précéder là où nous irions, et si je n'avais de plus chère Bethléem, on nous déteste, on nous écrase. Pourquoi ne pas opposer simplement à la haine la patience? Pourquoi ne pas opposer à l'arrogance l'humilité? Et le Sauveur lui-même n'a-t-il pas tout enduré jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix? Et c'est ainsi que saint Paul calmait puis soutenait Jérôme, qui était très impétueux. On sait qu'il avait un caractère difficile et audacieux. Alors, tout le monde a cru pourtant un moment qu'il faudrait fuir devant un ennemi bien plus redoutable encore. Une rumeur sinistre s'était répandue. Les Huns, vous vous souvenez des envahisseurs, là, les Huns menaçaient Jérusalem, et tout près de Bethléem. Paul se décide à la fuite, mais ça déchire son cœur. Elle va avec ses vierges, ses moniales, sur les bords de la mer, à Joppé. Et heureusement, les Huns rebroussent chemin avant d'avoir franchi le Liban. Paul, pleine de joie, ramène ses filles dans son monastère. Et pour consommer sa vertu, mais Dieu lui envoie d'autres épreuves. Dieu envoie des épreuves. Mais oui, peut-être. C'est difficile de le croire que Dieu nous envoie des épreuves. Je crois que les épreuves suffisent par elles-mêmes et que Dieu nous secourt au creux de nos épreuves. J'aime pas ce langage, comme si Dieu nous torturait. Je n'aime donc pas ce langage. Des deuils répétés viennent faire pressentir l'approche de ces derniers moments à Saint-Paul. Et après la mort de sa fille Pauline, celle de son fils Toxos ou Toxotius, et la mort de son fils, c'est comme le coup suprême des douleurs de cette mère. Puis surviennent les infirmités. Vers la fin de l'an 403, saint Paul commence à ressentir les atteintes de la maladie qui vont l'emporter. Le monastère est dans la consternation. Sa fille Eustochie, surtout, est inconsolable. Elle ne veut céder à personne la douceur de soigner sa mère. Elle ne quitte pas sa mère un seul moment. Elle est toujours près du lit de la malade. Elle va prier toutefois à la crèche de temps en temps. Elle demande à Dieu de ne pas la priver de son soutien et de ne pas la laisser survivre à sa mère, car elle dépend tellement sur le plan spirituel de l'exemple de sa mère et des paroles de sa mère. Saint Paul souffre avec une patience admirable. Elle a une très grande sérénité qui l'habite. C'est le don que reçoivent les saints au moment de la mort, souvent. Et le mal fait sans cesse des progrès. Le cœur ne bat que pour Dieu, comme on peut en juger par les versets des psaumes qu'elle murmure faiblement. Et là, l'évêque de Jérusalem, puis les autres évêques de la Palestine, avec les prêtres, vous êtes surpris, on parle toujours des musulmans en Palestine, mais c'était plein de chrétiens dans ce temps-là. Tous ces pays-là, c'était chrétiens avant l'arrivée de l'islam. L'évêque de Jérusalem, donc, et les autres évêques de la Palestine, avec les prêtres, les moines et les vierges, étaient accourus pour assister au spectacle de cette sainte mort. Et Jérôme remarque qu'elle ne murmurait plus de psaumes. Elle demande si elle avait, lui demande si elle a quelque peine. Elle dit, oh non. Elle répond en grec, oh non. Ni peine, je ne ressens ni peine ni regret. Je sens au contraire une paix profonde. Et là, l'agonie commence et une clarté soudaine brille sur son visage. Là. Et son regard paraît se fixer sur une apparition céleste. On voit ça, il y a même un moine à Saint-Benoît-du-Lac, le frère Hilaire, qui est mort un peu comme ça. On a cru qu'il avait vu la Vierge. Alors elle expire en disant « Je crois voir les biens du Seigneur dans la terre des vivants ». Et c'était le 26 janvier 404. Elle est fêtée le 26, elle est fêtée maintenant aujourd'hui. C'était changé. Paul avait vécu 56 ans, 5 ans à Rome après son veuvage dans la sainte profession de la vie religieuse et 20 ans à Bethléem près de la crèche où naquit Jésus. Ses obsèques ont été un triomphe et le corps fut d'abord transporté au monastère dans l'église de la crèche là. Où vous êtes allé peut-être quand vous êtes allé à Bethléem, dans cette église où il faut se pencher pour entrer, pour éviter qu'on rentre à cheval. Alors elle est exposée à visage découvert, tellement elle avait un beau visage. Les fidèles sont venus très nombreux, les évêques ont tenu à la porter, c'est eux qui ont porté le corps. Hein? Et on a remarqué surtout de nombreux cortèges des indigents qui pleuraient leur mère. Les restes mortels de Saint Paul ont été ensuite enfermés dans un sépulcre de pierre en face de la grotte où Saint Jérôme a passé les dernières années de sa vie dans l'étude et la pénitence. Et on peut dire qu'il a été le premier à rendre un culte à Saint Paul. On montre encore à Bethléem le tombeau de cette sainte, mais on sait que le corps est plutôt dans la cathédrale de Sens en France, qu'il l'a depuis le 9e siècle. La mémoire de Saint Paul est donc marquée aujourd'hui, et c'est ainsi que se termine cette vie de Saint Paul, qui est une femme extraordinaire. Et c'est Saint Jérôme qui dit, alors que je demandais à Paul si elle souffrait, il me répondit, en grec, je le rappelle, je ne souffre pas. J'éprouve un grand calme et une grande paix. Espérons que nous pourrons mourir comme Saint Paul.